ensemble sur Calad.
Histoire de femmes, femmes d'histoire.
Allez, Geneviève Huglot est avec moi en studio, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour amis de la Calade.
Vous nous présentez régulièrement les histoires incroyables de femmes qui ont marqué l'histoire, on peut dire ça comme ça?
On peut dire ça carrément comme ça.
Et aujourd'hui, dans quel univers est-ce que vous nous emmenez?
Alors aujourd'hui, on va se transporter en Chine, aux alentours de l'an 1000. Donc à la tête de cet immense empire qui va de la Mongolie à la Russie orientale et en passant donc par le nord de la Chine.
Ok.
Et donc, il se trouve qu'en 983, l'empereur meurt. Il a bien sûr des fils, mais qui sont beaucoup trop jeunes pour régner. Et donc, c'est sa femme, l'impératrice, du coup, Xiao Yanyan, qui va prendre son relais.
D'accord.
Voilà. Donc, impératrice douairière, hein, tu vois, là, je te parle d'une impératrice, comme il en a eu tant dans l'histoire. Pourquoi est-ce que
on s'attarde demandé, est-ce que c'était commun qu'une femme puisse être impératrice en Chine ou...
Impératrice douairière, complètement. Ouais. Et en France aussi, d'ailleurs, et en Europe. Et ça n'a rien d'exceptionnel.
D'accord.
Par contre, c'est l'empreinte dans l'histoire qu'elle va laisser qui l'est beaucoup plus. Puisque cette femme, est restée célèbre pour son génie militaire.
Ah oui.
Ouais, une première chef, alors comme nos fervents défenseurs de l'écriture inclusive diront que chef, c'est encore la féminité silencieuse. Donc je vous laisse apprécier si on l'écrit avec un F, deux F, un E, enfin voilà, vous faites comme vous voulez derrière votre poste de radio. Néanmoins, l'histoire a retenu son nom et c'est une femme qui est restée très populaire. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un film récemment, d'une série très populaire en Chine. Puisqu'elle se lance dans toute une série de réformes, donc ça va être une impératrice éclairée, je rappelle qu'on est en l'an 1000. Elle renforce son pouvoir notamment en nommant des proches à des positions importantes pour se protéger d'une possible...
De trahison.
Exactement. Elle introduit un système de taxes, protège l'agriculture et le commerce. Mais évidemment, un tel empire ne laisse pas froid ses concurrents, et donc comme les rivalités sont grandes, le conflit ne tarde pas. En 986, l'empereur Song Taizong, qui est donc son grand concurrent, lance une expédition militaire. Trois armées sont envoyées vers trois lieux stratégiques différents, avec succès. Mais Xiao Yanyan n'en reste pas là. Elle va envoyer une troupe de 10 000 cavaliers et elle va infliger des pertes terribles aux Song et capture de nombreux prisonniers que l'impératrice aurait gracié à l'occasion de son anniversaire, ce qui est là aussi une preuve de grande humanité. Et... auréolée de ses victoires et surtout de cette grande preuve d'humanité, elle va écraser son ennemi et sa victoire est complète. Et donc cet échec d'invasion, malheureusement, ne va pas alléger les tensions. Bien au contraire, d'autres escarmouches vont éclater sporadiquement entre 986 et à la fin de son règne en l'an 1000. Pour autant, elle va lancer une vaste attaque et c'est âgée de 51 ans qu'elle continue à mener ses troupes à la bataille, elle-même.
Ouais.
Elle
est,
elle ne commande pas en étant à l'arrière, elle donne l'exemple. Elle monte à cheval et forte de sa popularité aussi auprès de ses soldats, elle va réussir à mener ses troupes à la victoire et surtout à mener des négociations qui vont permettre d'entamer une paix durable.
Ouais, c'est pas une guerrière qui fait que la bagarre, quoi.
Exactement.
S'il y a moyen de discuter, de négocier, elle préfère le dialogue, c'est ça?
Exactement, elle sait faire aussi. Et c'est probablement pour ça, d'ailleurs, que l'histoire a retenu son nom, puisqu'elle a vraiment toutes les cartes du grand monarque dans ses mains, aussi bien réformatrice que diplomate ou guerrière, lorsque, malheureusement, on n'a pas le choix.
Ouais. Et son règne se termine en l'an 1000 alors? C'est ses enfants qui étaient...
1009, ouais. En fait, elle va régner jusqu'à sa mort. Ça aussi, c'est peu banal, puisque normalement, au moment où les enfants sont en âge de prendre le relais, la reine passe le pouvoir, de façon à ce qu'il y ait toujours cette continuité monarchique. Et là, les enfants vont respecter leur mère dans toute sa splendeur à avoir si bien mené les affaires du royaume. Mmh. Et donc, ils vont attendre sa mort et ils vont lui organiser des funérailles nationales. Et tout le gouvernement va porter des vêtements de deuil en signe de respect, ce qui est normalement plutôt réservé, aux enterrements de monarques, d'empereurs et non pas d'impératrices.
D'accord. Xiao Yanyan.
C'est ça.
Eh bien, c'est la classe. Merci beaucoup, Geneviève.
Mais je t'en prie, Mathieu.
À bientôt sur Calade.
Ensemble sur Calade.